Je vais pas me faire des copains ce matin, mais je voudrais reprendre des paroles. On a chanté Oui, nous t'attendons. Si la foi soulève les montagnes, que les montagnes se lèvent. D'accord. Le cœur rempli d'espérance. Oh, ben alors. Le cœur rempli d'espérance, nous t'attendons, Seigneur. Oui, nous t'attendons. Et en fait, c'est là où moi j'ai été repris tout à l'heure. C'est que Dieu fait beaucoup de choses et Dieu nous dit beaucoup de choses et Dieu est prêt à faire beaucoup de choses et Dieu veut qu'on fasse beaucoup de choses. Et c'est nous qui lui disons, oui, nous t'attendons. Vous n'avez pas l'impression qu'on a mis les choses à l'envers? Et c'est ça où j'étais repris tout à l'heure. Les paroles sont vraies, hein. Oui, nous attendons des choses belles et grandes. Les paroles sont très vraies. Mais dans le contexte de tout à l'heure, ce n'était pas à nous de dire à Dieu ou à Jésus, nous t'attendons. C'est lui qui est en train de nous attendre. Et il est là. Et il est là. Et il est là. Et ce matin, si vous attendez des miracles, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Toi, Seigneur de toute création, tu connais mon cœur, tu es l'auteur du salut, tu m'as toujours aimé. Tu es tel que tu nous l'as dit, fidèle à tes promesses, nous avons faim et soif de toi, de ta présence, Seigneur. Et donc le couplet, oui, nous t'attendons, vois nos mains élevées vers toi, nous t'aimons, t'adorons, chantons Alléluia. Il est vrai ce chant, il est très vrai. Il est très vrai. Je pourrais tous les reprendre, béni soit ton nom, etc. Ce sont des chants forts. Donc là, je vais demander la collaboration de Pierre. Vas-y, tu peux déjà cliquer là sur la première page. Puisque, voilà, question d'espérance. J'ai intitulé mon prêche ce matin, question d'espérance. Et au début, j'avais changé le titre. J'avais mis une question. Où est ton espérance? Et tout à l'heure, quand on est arrivé là, dans la voiture, j'ai dit non. Il y a quelque chose qui pêche, c'est question d'espérance. Et en fait, tout ce qu'on a déjà vu là ce matin, tout ce qui s'est déjà passé ce matin, c'est déjà une question d'espérance. C'est pas une question de te dire, c'est pas à moi de te dire où est ton espérance, c'est déjà une question d'espérance. On a déjà passé le stade de se poser la question. Tout ce que tu attends dans ta vie ce matin, c'est déjà question d'espérance. C'est déjà question d'espérance. Et ça, vous voyez, ces deux mots-là, je vais les répéter un nombre de fois ce matin pour qu'on puisse tous se les graver dans la tête et dans le cerveau, dans le cœur, où vous voulez, sur le bras, etc. Mais qu'on puisse avoir ce tatouage qui dit question d'espérance. Ma vie est une question d'espérance. Ma vie avec Jésus est une question d'espérance. Ma vie de couple est une question d'espérance. Ma vie de famille est une question d'espérance. Ma vie personnelle est une question d'espérance. Ma vie d'église est une question d'espérance. Mon travail est une question d'espérance. Tout est question d'espérance ce matin. Et si on a prié pour Eddie, c'est une question d'espérance. Moi, j'ai envie de voir une jambe qui repousse. Vous savez que le jour du baptême, on a choqué des gens. Je vais être même plus précis. Thierry a choqué des gens. La honte. T'es où Thierry? Ouh, sortez-le. Thierry a choqué des gens parce qu'il a dit, moi je prie pour qu'une jambe repousse. Et là les gens, oh, mon Dieu, mon Dieu. On prie un Dieu vivant, on proclame un Dieu vivant et on choque des gens parce qu'on dit que tu es un Dieu de miracle. J'ai prévenu tout à l'heure Antoine, moi son prêche de la semaine dernière m'a marqué. Qui était là la semaine dernière? Est-ce que tout le monde se souvient de quoi Antoine a parlé la semaine dernière? La piscine, tout de suite, voilà. Voilà, parce que c'est l'été, tout, il fait beau. Bethesda. Bethesda, Bethesda. Et en fait, déjà, Antoine a prêché sur l'espérance en Jésus et non pas l'espérance dans le miracle et la guérison, l'espérance de ce malade. Son espérance n'était pas bonne, elle n'était pas bien centrée, elle n'était pas là où il fallait qu'il la mette, son espérance. Et bien moi, je vais reprendre ce prêche-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut qu'on l'entende. Il faut qu'on l'entende. Donc je vais lire juste les quelques premiers versets. Je ne les ai pas mis dans mon PowerPoint, Pierre. Donc sois pas inquiet. Je vais commencer. Bon, je commence au 1. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, près de la porte des brebis, hein, donc clairement, c'est le nom de, enfin, ça porte le nom de ce que c'est. La porte des brebis, c'est par là où passaient tous les troupeaux de brebis. D'accord? Il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Donc clairement, la piscine de Bethesda, c'était un lieu où on faisait boire les troupeaux de brebis. D'accord? Sous ces portiques, donc les portiques servaient à protéger les gens du soleil, etc. Donc il y avait 5 portiques. Un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Mais pourquoi il cite, pourquoi il y a une liste? Pourquoi il y a une liste? Pourquoi des aveugles, des boiteux, des paralysés? On sait ce que c'est que des malades qui étaient couchés. On le sait tous, mais il y a une liste. Ça veut dire que là, quand on cite des maladies, ce ne sont pas des maladies anodines, ce n'est pas un rhume. D'accord? Jésus arrive dans un endroit où vraiment c'était la misère. La misère à la fois spirituelle, mais là où il y avait une espérance qui était là, qui était latente, mais l'espérance n'était pas au bon endroit, elle n'était pas bien centrée. En fait, Jésus va prendre un exemple. Donc, ils attendaient le mouvement de l'eau. Alors, je me suis un petit peu, j'ai un peu cherché des choses historiques sur ça. Parce que moi, je me suis dit, mais mince, quand on dit qu'un ange vient de temps en temps bouger l'eau, et j'en ai parlé avec Thierry et Antoine mardi, je dis, mais il était vicieux, cet ange. C'était vicieux. J'ai toujours été mal à l'aise avec ce passage. De temps en temps, il y a un ange qui vient bouger l'eau, puis il regarde, et puis le premier, il est guéri. Mais moi, je suis ange, je guéris tout le monde. Non? Donc, c'est vrai que ce passage-là était un petit peu pour moi quelque chose de... J'étais un petit peu bousculé. Et en fait, d'après l'histoire, en fait, c'était une source, Bethesda, c'était une source d'eau vive, d'accord, de l'eau vive, donc de l'eau qui sortait de la terre, mais qui était de façon très irrégulière. De temps en temps, l'eau jaillissait. Et hop, ça s'arrêtait, et l'eau jaillissait. Et comme c'était inexplicable à l'époque, on a commencé à dire que c'était un ange qui faisait jaillir l'eau. Ça va? Mais en fait, c'était quelque chose de naturel. Mais ça n'empêche que dès que l'eau jaillissait, il y avait un miracle quand quelqu'un se jetait dedans. Donc il y avait quand même une notion surnaturel. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et voilà, bon, bref. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? D'accord? Moi, j'aime bien l'idée que l'ange vienne remuer l'eau. Par contre, j'aime pas l'idée qu'il vienne de temps en temps pour un seul malade. Là se trouve un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Et donc, c'est là où tu peux cliquer deux fois parce que j'ai passé le titre. Non, on a pas... Ouais, donc vas-y, deuxième fois. Non, arrête-toi là. Parce que, j'ai mis à l'envers média, mais Jésus a dit à cet homme, veux-tu être guéri? Là aussi, c'est un truc complètement... reviens à celle d'avant, parce que je vois que tout le monde est en train de lire la phrase et je vous ai perdu. Jésus dit à cet homme, veux-tu être guéri? Est-ce que ça choque quelqu'un ou je suis le seul à être choqué ici? Parce que là, on est tous à se dire, ben oui. Une fois, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé. Je me souviens, on était avec Antoine, on avait une dame ici dans une chaise roulante il y a longtemps. Donc, cherchez pas qui c'est, vous la connaissez pas. Et on lui a dit, on va prier pour toi pour que tu te lèves de ta chaise. Elle a dit non, parce que si jamais je suis guéri, je perds ma pension. Ça, tu te souviens, Antoine? Ça, tu dis, oh, oh. Donc là, on a tendance à se dire, Jésus qui dit à un malade, veux-tu être guéri? Non, Jésus, je vais perdre ma pension. Non, le malade, il lui dit même pas oui ou non. Il lui dit pas oui ou non. Il lui dit, mais j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il dit pas oui, il dit pas non. D'accord? Mais pourquoi Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Tout simplement parce qu'il veut voir à quelle mesure est son espérance. Ça s'arrête là. Enfin, ça s'arrête là. Il y a toute une histoire derrière, bien évidemment. Mais moi, ce matin, je m'arrête là. Veux-tu être guéri? Quelle est ton espérance dans ta guérison? Quelle est ton espérance dans ta vie? Quelle est ton espérance dans ton église? Quelle est ton espérance à tout niveau, à tous les niveaux? Ce matin, on a été repris, vous savez, par la prophétie qu'a donnée Josine. Est-ce que tout le monde se souvient ce qu'elle a dit, Josine? Dieu nous a demandé ce matin de nous sanctifier. Dieu nous a demandé de nous sanctifier. Et elle l'a répété au moins 20 fois. Sanctifiez-vous, je suis saint. Sanctifiez-vous parce que je suis saint. Sanctifiez-vous. Marchez sur une route de sanctification. Et après, on va lui chanter, oui, nous t'attendons. Je suis désolé, je suis peut-être un peu cruel là sur ce que je viens de dire. Mais non, 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 non. Jésus nous attend. Il est là, il nous attend. Et là, ce matin, mon prêche, c'est question d'espérance. Pour entrer dans la sanctification, il faut espérer. Et je peux vous prendre chacun, un par un, et moi le premier. On a tous une ou des espérances ce matin. Désespérance. Des, en deux mots, désespérance, pas désespérance. D'accord? Ça va? Je suis un peu de vocabulaire ce matin. Bon. Mais voilà, on a tous une ou plusieurs espérances. Qui n'a pas d'espérance ce matin? Vas-y, lève la main. Je suis sûr que là, si j'ai une main qui se lève, tu ne sais pas ce que tu vas prendre. On a tous une espérance. Et si vous êtes là ce matin, c'est qu'il y a une espérance. Si tu viens à l'église le dimanche, c'est parce que tu as une espérance. Tu ne vas pas me dire que tu te lèves le dimanche matin histoire de t'amuser pour dire « Oh tiens, oh, allez, je vais aller m'ennuyer à l'église. Tiens, c'est cool. Bon, je sais que c'est Fred qui va prêcher, on va s'ennuyer une demi-heure, mais je vais quand même. » Non, non. Tu sais pertinemment que tu as un Dieu vivant et tu sais pertinemment que Dieu veut combler ce que tu as là, dans ta cage thoracique, ça s'appelle un cœur. Et on a tous un cœur de chair. Parce qu'à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ton cœur est devenu cœur de chair. Et Jésus, au fur et à mesure que ton cœur est devenu chair, il a mis des espérances. Des espérances. Et il a mis une espérance peut-être plus, on va dire une espérance majeure par rapport à d'autres, mais ta vie est une question d'espérance. Je reprends mon PowerPoint. Donc là, vas-y, tu peux passer à la suivante. Bon, c'est écrit petit. Mais vous savez quoi? L'espérance, elle est calculable. Bon, j'ai été le seul surpris sur ce coup-là. Vous savez quoi? Eh bien, en maths, en mathématiques, et Dieu sait si je suis balèze en maths, eh bien, il y a une définition de l'espérance. Il y a une formule qui vous permet de calculer votre espérance. Allez, on va la lire ensemble. L'espérance d'une variable aléatoire est, lorsqu'elle existe, la moyenne des valeurs de cette variable pondérée par leur probabilité de réalisation. On voit bien comment traduire cette définition. On voit bien comment traduire cette définition. Cette définition informelle, d'accord. Mais on voit bien. Tout, ça va, vous avez tous vu comment on peut traduire cette définition? D'accord. Dans le cas d'une variable aléatoire discrète, on va l'appeler X. Allez, soyons fous, appelons-la X. En posant donc l'équation, vas-y Pierre. Allez. Ça va? Ça va? Vous avez 4 heures. Et là, c'est là où j'ai prévu quelqu'un qui va rentrer. Vas-y, tu peux amener les copies blanches. Allez. Vous avez un stylo? En maths, on est capable de calculer les espérances? Ben alors? Ça veut dire qu'on est tous capables de calculer notre espérance? Puisqu'en maths, on est capable de le faire. Allez, je la refais juste pour l'amusement. L'espérance d'une variable aléatoire est, lorsqu'elle existe, la moyenne des valeurs de cette variable pondérée par leur probabilité de réalisation. On voit bien comment traduire cette définition informelle dans le cas d'une variable aléatoire discrète X en posant, donc deux points, mais... Déjà, moi, les 4 premiers mots, je suis paumé. L'expérience d'une... Ah si, allez, d'une variable aléatoire, si, quand même. En fait, on se sert de cette définition-là pour calculer au bout de combien de fois je pourrais gagner au loto. C'est vrai, hein? Et je l'ai fait, dans mes études, on l'a fait, c'était amusant. Mais ça sert, entre autres, à calculer combien... Au bout de combien d'années, je pourrais gagner ou ne pas gagner au loto en jouant les mêmes formules, etc. etc. Ça s'appelle des probabilités. Mais moi, je vais m'arrêter. On va passer l'aspect mathématique et on va passer à la définition biblique. Ouais, donc ça, on va le passer, hein, puisque j'en ai déjà parlé. Veux-tu être guéri? Moi, cette question, elle arrive plusieurs fois d'ailleurs dans la Bible, hein, mais elle est très vraie. Quand Jésus dit « Veux-tu être guéri ?», c'est pas pour avoir une réponse. Parce que Jésus, il s'en fiche de la réponse quelque part. Mais il veut voir ton cœur, et Jésus voit le cœur déjà. Il connaît vos cœurs, il connaît nos cœurs. Il sait comment et à quel niveau tu te situes. Et s'il te pose une question ce matin, c'est parce qu'il voit comment ton cœur réagit. Vous savez que le cœur est un bon, on va pas dire un thermomètre, parce qu'on ne parle pas de température, mais un bon baromètre, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, quelque chose qui permet de mesurer, vous savez. Parce que quand vous êtes dans une situation donnée, des fois ça fait boum, 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 boum. Ça, d'accord? Vous savez qu'en médecine, on appelle ça le poum-tac. Poum-tac, poum-tac, poum-tac. Et puis vous allez dans une autre situation, là, poum-tac, 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 poum-tac. Vous allez courir 1000 mètres. Enfin, moi, je vais courir 20 mètres, ça va palpiter à fond. Et au bout du 21e mètre, généralement, je pense mourir. Mais voilà, c'est là où Dieu veut, Jésus veut voir ton sentiment, veut voir si réellement tu veux être guéri. Donc la définition dans la Bible, et tout le monde connaît ça. Hébreux 11, 1, ça devrait être le verset, j'aurais dû dire Hébreux 11, 1, et tout le monde m'aurait dit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai déjà beaucoup prêché sur la foi, à plusieurs reprises, et ce n'est pas mon thème ce matin, je ne veux pas prêcher sur la foi, mais malgré tout, eh bien dans la Bible, c'est l'une des références de l'espérance. L'espérance, c'est la foi. Et vous savez qu'également dans Hébreux, on dit bien que sans foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et que sans foi, on peut rien voir. Parce que c'est la foi qui permet de déplacer les montagnes, ce qu'on a chanté tout à l'heure. Et donc, notre espérance doit être tellement grande que c'est notre foi qui l'a fait bouger. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ton espérance, elle se situe à quel niveau? Si on avait un baromètre entre 0 et 10, prends un sujet, réfléchis à un sujet sur lequel tu espères ce matin. Maintenant, fais une introspection et dis-toi, voilà, un baromètre ou une graduation entre 1 et 10, sur ce sujet donné, quelle est mon espérance envers Dieu? Si tu es près du 0, ça ne sert à rien. Par contre, si tu es près du 10, c'est là où Dieu voit que ton cœur va commencer à palpiter un petit peu plus fort. Parce que moi, j'ai coutume de dire qu'on a tous un rôle à jouer. Il n'y a personne ici qui est plus important l'une que l'autre. Personne. Mais on a tous un rôle à jouer dans une église. On a tous un rôle à jouer dans notre vie. Et même si des fois, on a tendance à s'inférioriser, et je suis le premier à le faire, d'accord, là je vous ai confessé une chose, c'est que ça n'empêche que Dieu a un regard bienveillant envers toi. Dieu a un regard bienveillant envers toi. Et c'est là où on remporte des victoires. Si on associe tout ça, le fait de savoir que Dieu nous attend et qu'il a un regard bienveillant envers nous, et que nous, on va vers lui et qu'on a cette espérance en lui, cette foi qui nous permet de croire que ce sont les choses, enfin, c'est de croire que notre foi fait en sorte que les choses qu'on espère soient vraies, soient là. Eh bien, on a tout gagné. On va prendre ensuite Romains 5, 1 à 5. J'en ai mis un petit peu plus que ce que je vais garder. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, je le reprends. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes justifié ce matin? Est-ce que vous êtes justifié ce matin? Donc si vous êtes justifié, ça veut dire que vous êtes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça n'empêche que Dieu nous demande de marcher sur un chemin de sanctification, encore et encore et encore. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. C'est juste ce verset-là que je vais garder. Enfin, ces deux versets. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, pardon, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné, qui nous a été donné. On parle bien, vous voyez, il y a tout un échelon, enfin il y a un échelon, il y a toute une démarche. On parle à partir du verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, l'épreuve. L'épreuve est là. Vous savez, quand tout à l'heure on priait pour Eddie, c'est une femme forte pour moi. Je ne dis pas ça parce qu'elle est là. Mais cette épreuve qu'elle a vécue, elle a quand même perdu un membre. Elle a gardé cette foi en Dieu. Son affliction a fait en sorte qu'elle produise la persévérance. La persévérance, le fait qu'elle soit là ce matin, c'est la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, C'est écrit noir sur blanc. Ça veut dire que on pourrait, en fonction de notre foi, avoir la victoire, ou on peut avoir la victoire. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et là, tout est dit, la boucle est bouclée. Hein. Lorsqu'on prend l'espérance dans Romains, c'est la dia suivante. Là, dans le grec, c'est elpis. Elpis, c'est l'espérance d'un bien, d'un espoir. Et c'est amusant parce que quand vous prenez les Strong, on vous donne le sens chrétien de l'espérance. C'est une attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. L'espérance, d'un sens chrétien, c'est l'attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. Et l'origine du mot, ça vient de Elpo, qui dit anticiper. C'est anticiper. Eh bien, là, pareil, on refait une boucle, hein, on parle de foi. La foi, c'est quoi? C'est l'anticipation, tout le temps. Et généralement, avec plaisir. Ça veut dire que nous, les chrétiens, nous qui servons Jésus, nous qui servons Dieu, nous sommes appelés, dans la joie, à anticiper, à avoir cette espérance, c'est le principe de l'anticipation, en vue d'une vie éternelle. Est-ce qu'on est nombreux ici à croire en la vie éternelle? C'est là où ça pêche dans le monde, hein. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne croient pas en la vie éternelle. Beaucoup ne croient pas que derrière la mort, il y a une vie. Et c'est là où ils se disent, bah, de toute façon, moi je vais vivre mes 80 années sur Terre tranquillou, parce qu'une fois que je serai mort, je ne pourrai plus en profiter. Et c'est pour ça qu'on voit que l'espérance, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, et en l'occurrence le jeune homme riche qui vient voir Jésus, vous vous souvenez ça? Le jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui lui dit, voilà, que bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, bah tiens, t'as tous les commandements, machin, et donc il lui donne. Et en fait, il met à jour quoi? Le principe que ce gars-là, il a une espérance dans ses richesses. Il est en train de faire tout ce que Dieu veut, il a accompli tous les commandements, mais il a de grandes richesses. Son espérance, elle est dans sa richesse. Parce que quand Jésus lui dit, bah va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, boum, il aura des pâquerettes. Son espérance n'est plus bonne. Jésus a mis à jour une mauvaise espérance. Donc ta vie, ma vie, est question d'espérance. Ça va? Ouais, si vous êtes avec moi, levez la main. Bon, j'en ai perdu 4. Psaume 62. Là, c'est David qui parle. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient... Confie-toi en Dieu. Et Dieu comme confident. Ce matin, lorsque je priais pour ce matin, d'ailleurs, ça a été une de mes prières. Je dis, voilà, Seigneur, je te demande pardon parce que je ne passe pas assez de temps avec toi, en tête à tête. Je devrais en passer plus, avoir cette relation de confidence avec Dieu. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir cette prière, mais ce matin, ça a été ma prière, c'est-à-dire, Jésus, je ne passe pas assez de temps avec toi. Et c'est quelque chose qui m'empêche d'aller plus loin avec toi. Et c'est peut-être là que ça pêche dans le sens où, eh bien, il y a des choses que je ne peux pas voir parce que je n'ai pas cette relation directe ou cette relation de proximité avec Dieu qui m'autoriserait à rentrer dans une dimension bien plus grande. Et vous savez, tout à l'heure, quand je vous parlais d'Élisée, avec ce 13e miracle dans Élisée, vous retrouvez ça dans Deux Rois. Et Élisée, quand il a été enterré, que c'était des ossements, on parle bien d'ossements, donc Élisée est mort depuis bien longtemps, et qu'on lui jette un cadavre sur ses ossements et que le cadavre reprend vie. Vous imaginez la relation qu'Élisée devait avoir avec Dieu? Parce que même après sa mort, il y avait encore une onction sur ses os. C'est pas une légende, hein. Si c'est écrit dans la Bible, c'est pas une légende. Il y en a qui croient que c'est une légende ici. Pour moi, c'est la réalité vraie. C'est un pléonasme ce que je viens de faire. Mais c'est une réalité vraie. Ou c'est une vraie réalité vraie. Dieu est un Dieu de réalité. Dieu est un Dieu qui n'a pas besoin de... Vous savez, les gens qui vous disent, ben moi je suis comme Thomas et j'ai besoin de voir. Tu vas voir. Tu vas voir bientôt. On va voir. Et on voit déjà. Ce matin, j'ai quelqu'un qui est venu me voir. Je ne vais pas la citer parce que voilà, je ne vais pas demander l'autorisation. Mais elle m'a dit, voilà, cette semaine, j'ai vécu tel miracle dans ma vie. Ça faisait autant de temps que je n'avais pas ça dans ma vie. J'ai vécu ce miracle-là. On a prié la semaine dernière ici. Et voilà, cette semaine, boum, j'ai eu mon miracle. J'ai été guéri. Moi, j'ai vu un miracle ce matin. Je suis content. J'ai vu un miracle ce matin. Mais c'est pas que ça, c'est la relation avec Dieu, parce que David le disait, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. J'ai pris juste ce verset-là, mais vous pourrez le reprendre, le psaume 62. Quelle est ton espérance ce matin? Quelle est ton espérance? On n'est pas sur le même terme pour l'espérance. Là, on est dans l'Ancien Testament, donc bien évidemment, on n'est plus dans le grec, on est dans l'hébreu. Mais c'est tikvat, le terme hébreu. Et là, j'aime cette expression parce que, regardez, corde, cordon. L'espérance en Dieu, c'est une corde. Ça veut dire qu'on est relié à Dieu par une corde, là, et on espère et on tire sur cette corde. Et on tire, pour pouvoir se rapprocher. Parce que notre espérance, c'est de pouvoir être plus proche de Dieu, et plus proche encore. Ça veut dire que là, quand on parle d'espérance dans l'Ancien Testament, et c'est repris bien de nombreuses fois, eh bien c'est comme un cordon ou une corde. On est relié à Dieu. On est relié. On est attaché l'un avec l'autre. Et mon espérance, elle est que je suis attaché. Vous savez quand Georges, il chante « Je m'attache », ça c'est le chant qui fait fureur à chaque fois qu'il vient ici. Il suffit qu'il chante « Je m'attache », et là, vous voyez tout le monde qui danse et qui tournoie, sauf un. Parce que je m'attache à toi. Vous le connaissez ce chant? Je m'attache à toi. Quand Georges chante ce chant-là, tout le monde sait qu'on a besoin de s'attacher. Et nous, les premiers, avec Dieu, tu as besoin d'être attaché à Dieu. Tu as besoin de toujours ne jamais faire en sorte que cette corde ou ce cordon se pète. Ça va? Ça va? Je ne vais pas être beaucoup plus long parce que on va peut-être encore passer un temps ensemble d'un point de vue prière, etc., ou louange. Mais je sais que ça parle à des cœurs ce matin, ce que je suis en train de dire. Je sais que ça parle à des cœurs. Et ce serait même bien de pouvoir dire, tiens, Nadia, c'est quoi ton espérance? Boum, on prie pour toi. Cassandre, c'est quoi ton espérance? Pascaline, Antoine. Bon, Antoine, il n'a plus d'espérance, ça y est, elle est... il a tout vécu, il vit des miracles à longueur de temps et tout, donc il n'a plus besoin. Mais Marine, c'est quoi tes espérances? Arnaud, Solange, c'est quoi votre espérance? Samuel, c'est quoi ton espérance? J'arrête là, je ne vais pas faire tout le monde. Mais on pourrait. C'est quoi ton espérance? Tu as un Dieu d'espérance. Tu as un Dieu d'espérance. Dieu t'autorise à espérer. Et c'est la première des choses. Parce que dans Hébreu, je le répète, sans foi, on ne peut être agréable à Dieu. Et la foi, c'est croire que c'est quand ce n'est pas pour que ce soit. Même Abraham, dans Romains 4, 18, espérant contre toute espérance, c'est chaud quand même là, c'est le summum. C'est le top du top de l'espérance, là. C'est espérant contre toute espérance. Ça veut dire qu'il a lutté contre les espérances. Mais il a espéré contre les espérances. Là, pareil. Thème de philo, vous avez 4 heures. Copie blanche. Non. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Moi, je crois qu'on peut espérer voir l'église du phare avec une grande postérité. Ouais. Ouais. Moi, j'ai envie. J'ai envie de plus, toujours. Quand on parle avec Antoine ou avec les anciens, Thierry, etc., on a envie de ça, on a envie de plus. Il y a quelque chose qui nous remue. Tout le temps, on a des projets, on a des choses qui nous remuent. Parce qu'on espère contre toute espérance. On espère contre toute espérance. On espère voir des choses. Moi, je prie pour des sujets. Des fois, Antoine, il me dit, tiens, Fred, il va prier pour tel sujet parce que je sais que c'est lui qui a la foi pour ça. Allez, je vous en livre un. Les garages à côté. Ah ouais, Antoine, il faudra qu'on les ait un jour. Pour pouvoir avoir du parking ici. Le phare est une belle église. Vous êtes une belle église. Le phare a un beau cœur. Parce que le cœur, c'est l'espérance. Et on a tous ce cœur pour Dieu. Et moi, je me réjouis de voir comment les choses ont évolué, évoluent et vont évoluer. Parce que ça va continuer. Ça va continuer. Allez, je termine avec cette dernière dia. Cette image, elle est très vraie pour moi. Chez moi, j'ai une raquette électrique. Et là, j'ai mis des moustiquaires à la maison. Parce qu'ils m'aiment bien, ils me dévorent. À la Réunion, j'avais les jambes bouffées. C'est juste pour vous faire sourire. Mais Dieu vous attend comme vous êtes. Il vous aime comme vous êtes. Ne va pas dire à ton voisin, « Ouais, moi, de toute façon, ouais, je ne sers à rien dans l'église. » Ou « Je ne sers à rien dans mon boulot. » Ou « Je ne sers à rien dans mon couple. » Ou voilà, ceci, cela. Parce que Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime comme tu es. Il t'aime comme tu es. Et Dieu connaît ton cœur et Dieu connaît tes épreuves. Jessica, Dieu te connaît. Ouais. Et plus que tu ne le penses. Beaucoup plus que tu ne le penses. Et je pourrais citer des noms comme ça. Jessica, elle a besoin. Mais elle sait, on a discuté mardi ensemble. Et je sais que Dieu a des choses belles pour elle. Tout comme il a des choses belles pour toi aussi. Je vais demander à Sandy si tu peux venir. Est-ce que ça va, la notion de question d'espérance? Est-ce que vous avez bien situé? Qu'en fait, tout commence par là. Tout commence par là. Même quand il y a des gens qui viennent nous voir pour dire « J'aimerais donner mon cœur à Jésus, mais voilà, moi je vois comme ça ou comme ça. » Il y a déjà une espérance. Sans connaître Jésus, il y a déjà une espérance envers Dieu. N'est-ce pas, Ephraim? Il y a une espérance en Dieu. J'aimerais bien qu'on reprenne ce chant. Oui, nous t'attendons. On ne va pas changer les paroles, hein, ce n'est pas le but. Hein. Mais mettez-vous dans la tête que ce soit... Jésus vous dit ce matin, je vous attends. Ouais, je vous attends. Je vous attends. Je ne vais pas faire d'appel. Moi, ce que je voudrais réellement, c'est qu'on puisse rentrer dans une relation avec Dieu et qu'on puisse continuer à avoir un cœur qui soit soulagé. Parce qu'ici, il y a des personnes qui ont un cœur lourd. Vous avez un cœur lourd. Et moi, je ne peux pas croire qu'avec une prophétie comme ce qu'a donné tout à l'heure Josine, quand Dieu nous appelle en disant « Rentrez dans un chemin de sanctification parce que je suis un Dieu saint. » Et vous savez pertinemment, et on le sait tous, que si on s'approche de Dieu avec un cœur impur, on ne peut pas rentrer dans une relation avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas... Vous savez, la dernière fois, j'ai prêché sur la polarité. Le plus et le moins se retirent, se repoussent. Ou c'est le plus et moins, je ne sais plus. Enfin bon, bref, il y a deux pôles qui s'existent. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Dieu est un Dieu pur. Si vous arrivez que vous êtes impur, vous n'êtes pas digne d'être dans la relation avec Dieu. Et pour voir des choses, pour voir des miracles ce matin, il faut qu'on rentre dans ce chemin de sanctification. Donc ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse commencer là, à se rentrer dans ce chemin de sanctification et de pouvoir dire, Seigneur, révèle en moi ce que j'ai dans mon cœur, dans ma vie, qui fait que ça pêche et que j'ai besoin de rectifier ça dans ma vie. Vous le savez certainement déjà, mais Dieu attend plus. Dieu attend plus. Il attend plus de toi. Il attend que tu rentres dans ce chemin de sanctification. Et il attend qu'on rentre dans ce chemin de sanctification, parce que je vais y être aussi. On va tous y être. On doit changer, on doit continuer à changer. La course n'est pas finie. La course n'est pas finie. Ne croyez pas qu'un jour vous allez arrêter de pécher. Ça fait partie de la nature humaine. Mais à chaque fois, il faut dire, Seigneur, je me repens. Seigneur, je me repens. Voilà, j'ai fauté, j'ai chuté. Même Paul disait, j'ai une épine dans mon talon. Il reconnaissait lui-même qu'il avait un péché qui était latent dans sa vie. Et ça n'empêchait pas qu'il avait une relation avec Dieu. Et que Dieu agissait avec lui. Même en prison, il se réjouissait. Tout le temps. Mais il était sur ce chemin de sanctification. Tout le temps. Soyons sur ce chemin ensemble. Et avançons, avançons, plus ou moins vite peut-être, mais avançons ensemble pour que Dieu puisse se réjouir de voir une église qui est en avance. En avant, et toujours en avant. Ça, c'est l'expression favorite d'Antoine. En avant. Eh bien, soyons en avant. Amen.